Ô Dieu, nous voulons te bénir parce que nous croyons que tu veux nous édifier par ta parole. Ta parole visitée, vivifiée par ton esprit. Ta parole qui ne sera pas une lettre qui tue, mais une parole qui est esprit et vie dans toutes ses parties. Qu'il n'y ait plus opposition entre cette loi et l'esprit, mais que nous puissions comprendre que l'esprit vivifie cette loi en ton amour. Amen. Alors, mes amis, aujourd'hui, 19 juillet, faut pas que j'aille trop vite, nous continuons notre étude de l'aujourd'hui de Dieu en nous penchant sur le troisième chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens. Et la question du jour que nous envisagerons à la fin de notre étude, c'était: quel est le rôle du Saint-Esprit dans la formation du croyant aujourd'hui? Et un des grands sujets de cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, vous le remarquerez de plus en plus, c'est le ministère chrétien, son fonctionnement, la tâche qui lui incombe et les qualités indispensables pour être vraiment des ministres de Christ. Et à mesure que nous approfondirons ce sujet, nous serons toujours plus pénétrés que le ministère dont Paul parle n'est pas seulement le ministère apostolique, le ministère qu'il a reçu comme apôtre, mais c'est beaucoup plus que le ministère apostolique seulement, ou même que le ministère de la parole, mais que c'est le service de tous les saints. Il y a un service pour tous les saints, et tous les saints ont à accomplir le service que le Seigneur leur a départi. J'insiste sur ce fait que tous ont un ministère. À tous, Dieu a confié un service. Et souvent le plus infime service aux yeux des hommes a une importance très grande aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne regarde jamais à ce quoi l'homme regarde. Nous nous regardons à ce qu'il y a de l'apparence, l'apparence extérieure. Dieu regarde au cœur. Et c'est ce service du cœur qui a du prix aux yeux du Seigneur. Et je voudrais que ce matin en particulier, nous nous pénétrions de cette vérité. Si nous n'avons pas un don de l'esprit en faveur de l'Église ou du monde, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas l'esprit, hein, mais si nous n'avons pas une manifestation, un don extérieur, extraordinaire de l'esprit, eh bien, nous avons pourtant un service particulier auquel nous devons vaquer aussi soigneusement qu'à un service public. Je me souviens toujours d'une conférence, d'un séminaire que j'ai eu la joie de suivre avec le professeur Karl Barth, le grand théologien suisse qui a tant souffert autrefois sous Hitler, et qui disait, c'était uniquement des pasteurs qui étaient réunis là, il disait ceci: le concierge qui balaye l'église et qui a soin de mettre tout en ordre est plus grand que le pasteur. Et c'était tellement vrai. Il remettait tous les ministres à col, pardon, même si maintenant on n'en porte plus beaucoup, quoique ça revienne, mais ils les remettaient à leur place pour montrer que ce qui avait du prix aux yeux de Dieu, c'était l'accomplissement du ministère le plus humble. Et ici, je prendrai par exemple le ministère de Silvio. C'est pas pour faire des personnalités, mais nous en jouissons tous pleinement. Et si le temps marche comme il marche par la grâce de Dieu, eh bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se sent responsable dans toutes ces tâches matérielles que peut-être vous ne voyez pas, mais qui sont quand même là pour qu'il y ait de l'ordre, pour que tout puisse bien marcher. Mais je ne parlerai pas seulement de Silvio, je parlerai de Richard et de Paul. Nos amis qui font les toilettes, qui maintiennent la propreté, ils vont dans les lieux secrets. Jésus a parlé de cela. Il a parlé des lieux secrets pour désigner ces endroits-là. Vous connaissez la parole. Et dans toute l'Écriture, il est question que nous soyons de la propreté, que nous soyons des adultes. C'est presque chaque année qu'on doit relire ce texte du Deutéronome, pour vous montrer que Dieu s'occupe aussi de ces questions-là. Au chapitre 23e du livre du Deutéronome, et je le cite en passant, verset 13, ou verset 12 déjà, « Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là-dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux. » Mais les creux, ils ont été faits à l'avance. Vous n'avez pas besoin de cet instrument. Parce que le creux vous a été fait. Mais, s'il n'y avait pas cela, vous devriez avoir dans votre bagage, on mettrait objet à apporter, instrument du Deutéronome, chapitre 23, verset 13, et puis vous comprendriez que c'est pour recouvrir vos excréments. Alors, c'est pas pour les laisser sur le couvercle ou sur le bol, comme dit. Quand tu voudras aller dehors. Donc, ayez quand même de la correction. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu du camp. Vous vous rendez compte la précision, hein? L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu du camp. Et ici, j'ai vu aussi, il y a des chewing-gums. Si l'Éternel marche au milieu du camp, ça colle. Puis on ramène sous sa chaussure un chewing-gum. C'est pas correct. Il y a des gémissements inexprimables. Pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi, ton camp devra donc être une porcherie. C'est ça? Ton camp devra donc être saint, version révisée, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur. Même les Kleenex. Vous avez des poubelles. Et qu'il ne se détourne point de toi. Voilà. Un verset qu'on peut dire, mais enfin, c'est pas édifiant pour nous. Drôlement édifiant. Mais maintenant, j'ai cité seulement des hommes. Notre cuisinière, par exemple. Hein. Le travail qu'elle fait. Vous croyez que ça n'aide pas? Pour un camp? Je me souviens, c'était en 1950, oui, 50, à Saint-Brévin-l'Océan, au bord de l'océan Atlantique, dans les vieux pays. On avait un camp, et la nourriture était tellement minable qu'une jeune femme, professeure à Genève, avait fait cette réflexion. Si le diable est dans l'estomac, voyez-vous, le Seigneur a de la peine d'entrer dans le cœur. Alors, nous avons lu hier que nous n'ignorons pas les desseins du diable. De sorte que j'ai toujours insisté sur cette question que nous ayons une cuisine qui soit appétissante et abondante si le Seigneur nous permet la chose. Donc, tout doit être fait pour le Seigneur. Tous ont un ministère, et c'est un ministère qui a de la valeur. Au chapitre premier, nous avons vu que l'objet du ministère, c'est le Christ, c'est sa personne. Et que pour présenter le Christ, il nous faut de la puissance, qu'il faut être oint et scellé du Saint-Esprit. Il ne faut pas présenter aux âmes les vérités de Dieu comme étant une affaire d'intelligence, ou comme le fruit de nos études dans une école spécialisée du monde. Voyez-vous, ni Moïse, ni Paul n'ont servi Dieu avec la sagesse qu'ils avaient acquise, l'un aux écoles égyptiennes et l'autre à Jérusalem au pied de Gamaliel. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut avoir un effet sur les consciences et sur les cœurs. Au chapitre 2, le Seigneur nous a montré que le ministère n'a pas seulement pour but de présenter le Christ aux âmes dans l'évangélisation, mais qu'il a aussi une action dans l'Église en vue de maintenir la discipline, la cohésion et la sainteté de la communauté. Discipline qui doit s'exercer au point de vue des mœurs, donc discipline morale, mais aussi au point de vue de la doctrine. Parce que si nous laissons certains enseignements être propagés dans nos communautés, c'est un peu de levain, dit le Seigneur, et qui fera lever toute la pâte. Et le levain dans l'Écriture n'est jamais le symbole de l'Évangile, croyez-le, mais d'une doctrine erronée. Mais s'il est question d'un ministère de discipline, nous avons appris que c'est seulement en amour que la discipline doit s'exercer. Sans amour, la discipline n'est alors qu'un jugement légal qui n'a rien à faire avec l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui fait monter au Père des soupirs inexprimables. Quand on est en présence de quelqu'un auquel on doit dire quelque chose, bien, l'Esprit soupire d'abord. Et à la fin de ce chapitre 2, nous avons vu que le ministère est la présentation de la victoire du Christ aux hommes, victoire qu'il a eue à la croix, et aussi la présentation du parfum de Christ à Dieu. Nous sommes le parfum de Christ. Alors, quelle responsabilité pour nous ? Mais aussi, quelle responsabilité pour ceux qui rejettent l'Évangile. C'est pourquoi, quand nous parlons du Seigneur à une âme, nous devons être dans un état de prière. C'est tout notre être qui doit être une prière. Nous ne pouvons pas parler facilement du Seigneur. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Croyez-le. Il ne vous faut pas penser simplement que c'est le diable qui vous retient parce que vous avez de la difficulté à prononcer le nom de Jésus. Parce que ce nom que vous allez prononcer, c'est le nom qui peut sauver. C'est le nom au-dessus de tout nom. Alors, ne mettons pas ce nom à toutes les sauces. Mais comprenons que si nous prononçons ce nom, C'est le nom qui peut sauver, mais c'est un nom qui est saint. Et que si ce nom est refusé, eh bien, qu'est-ce qui arrive à l'âme qui le refuse? C'est la condamnation et elle périt. Elle périt. Et Jésus a pleuré en disant, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, il n'y aurait pas eu de péché. De sorte que nous avons une responsabilité et nous augmentons la responsabilité. Alors, ce n'est pas ça qui doit nous paralyser pour parler au nom de Jésus. Mais soyons préparés pour parler du Seigneur comme il veut que nous en parlions. Alors, arrivé au chapitre 3, Paul continue le sujet du ministère évangélique. Et je diviserai en trois parties. Versets 1 à 6. Nous voyons là la vraie recommandation du ministère. Elle se trouve dans le cœur des croyants. La vraie recommandation de ce ministère évangélique, elle se trouve dans le cœur des croyants. Versets 7 à 11. Deuxième partie. Ce ministère est plus glorieux que celui de l'ancienne alliance. C'est ce que nous allons voir. Et ensuite, versets 12 à 18, nous allons voir que cette vérité, c'est de cette vérité que vient la liberté de notre apostolat. Alors, examinons cela en détail. La lettre de recommandation, je reprends le chapitre que vous avez étudié, chapitre 3, les versets 1 à 6, Paul est donc contesté à Corinthe par des conducteurs spirituels qui sont venus d'Antioche, qui se réclament de Jacques à Jérusalem ou de Céphas. Et alors, ils se demandent s'il aurait besoin d'être encore recommandé par lui-même ou par d'autres. Et quelle est sa réponse? Puisqu'on le conteste, alors commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Et il y a dans certains milieux, justement, on prend ce texte, on le sort de ce contexte, et on dit, par exemple, que pour pouvoir participer à la Sainte Cène, il faut absolument avoir une lettre de recommandation. Sinon, vous êtes exclu. Vous pouvez venir avec une lettre de recommandation et ne pas être en état de prendre la Cène. Ce n'est pas votre fameuse lettre de recommandation qui vous permet, qui vous autorise de participer au repas du Seigneur. La lettre de recommandation, nous la voyons, par exemple, quand une personne va dans un lieu où elle ne connaît guerre de chrétiens, nous la connaissons, nous connaissons peut-être des chrétiens dans ce lieu, alors nous la recommandons, comme Paul recommande Phoebé, n'est-ce pas, la diaconesse de Sancré qui doit aller porter la lettre aux Romains. Alors je vous recommande notre sœur Phoebé. Mais il donne un témoignage de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin peut-être d'une lettre de recommandation. Mais un serviteur comme Paul, est-ce qu'il avait besoin de lettres de recommandation pour retourner auprès d'eux? Ou bien est-ce qu'il fallait qu'il en ait de leur part ou de quelque autre? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connu, élu de tous les hommes. Non, on n'a pas besoin de l'aide de recommandation. Ces lecteurs sont eux-mêmes une lettre vivante qui est connue de tous. Ils sont la lettre de Christ qui a été écrite par qui? Par l'Esprit de Dieu. Non sur des tables de pierre comme l'était la loi, mais sur les tables de chair de leur cœur. C'est quelque chose de magnifique. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Et vous voyez ce que c'est qu'un ministère. Un ministère doit tendre à écrire quoi? La vie de Paul chez les croyants? Non. La vie du Seigneur. Ce n'est pas avec de l'encre qu'il l'a écrit, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Il ne leur a pas seulement donné des lettres où ils apprendront à connaître la vérité, mais il a écrit dans leur cœur. C'est vraiment la vie du Christ. Dans le psaume 40, je vous cite ce passage. Quand le Seigneur se présente devant son Père pour venir accomplir son ministère sur la terre, vous lisez ce merveilleux texte du psaume 40. Tu n'as pas voulu d'offrande ni de sacrifice. Tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté, ta loi est écrite au fond de mon cœur. Jésus ne se promenait pas avec les rouleaux de la Torah, dans son ministère, mais la loi du Seigneur était écrite dans son cœur. Et l'apôtre Paul n'avait pas eu d'autre but que de laisser dans le cœur des Corinthiens la parole du Seigneur. Et cette parole les avait transformés. Ils étaient devenus des traités. On aime beaucoup distribuer les traités, et c'est quelque chose de très bien aussi. Mais là aussi, il faut faire attention. Parce que bien souvent, on veut pouvoir dire le nombre de traités qu'on a distribués dans une journée. Ce n'est pas le nombre qui compte. J'ai vu des rapports où on disait qu'on avait distribué 4000 traités. J'avais 20 ans à ce moment-là, mais je sais comment c'était distribué. C'était jeté par la fenêtre de l'automobile. Alors on passait dans un village, et c'était très dangereux, c'était même interdit. Mais on pouvait dire qu'on avait distribué 4000 traités. Il y avait des enfants qui couraient derrière et puis qui risquaient de se faire tuer. C'est pas le nombre, c'est pas comme cela qu'on doit agir. J'ai vu des personnes faire cela. Bien que Dieu nous garde. Ou bien voilà, on est dans un train et puis on veut absolument donner notre traité. Et il nous faut d'abord prier. Et puis savoir attendre le moment pour qu'il y ait une bénédiction. Le verset 4, cette assurance, cette confiance, eh bien, il l'a envers Dieu, qui n'a pas besoin de lettres de recommandation. Et il l'a par qui? Il l'a par Christ, auprès de Dieu. Vous voyez toujours que dans cet épître, Paul vit en Christ et devant Dieu. Cette confiance, je l'ai par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je crois que vous pouvez souligner ce texte. La confiance de Paul, il l'a dans le Seigneur. Il a reconnu qu'il n'était rien, qu'il ne pouvait rien, qu'il ne savait rien, et tout ce qu'il dit, eh bien, il le dit du Seigneur. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui l'a rendu capable d'être serviteur de la nouvelle alliance. Verset 6. Il nous a rendu capables d'être mis d'une nouvelle alliance, non de la lettre, celle qu'avait donnée Moïse, mais de l'esprit. Et il sort ici ce fameux verset, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'est la lettre? C'est la loi. La loi donnée par Moïse. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'elle tue? Parce qu'elle montre le péché. Parce que dans la loi, il est dit, faites ces choses et vous vivrez. Est-ce qu'on est capable de les faire? Non. Alors, le ministère de la loi, c'est un ministère qui nous amène à la mort, à la condamnation. C'est pourquoi le ministère de la loi, c'est le ministère de la lettre, mais ce ministère, il tue. Et nous amène à la condamnation. Donc, le ministère de la condamnation, c'est le même ministère que le ministère de la loi. Parce que la loi vous amène toujours à la condamnation. Vous ne pouvez pas vous tenir devant la loi sans vous sentir condamné. Surtout, si vous lisez la loi commentée par Jésus sur le sermon sur la montagne. Hein? Parce qu'il va déjà plus loin que la lettre. Il reprend les commandements, mais il dit, mais moi je vous dis. Et il va à la racine du mal. Alors, qui est-ce qui peut encore se prétendre juste après avoir entendu le commentaire de Jésus au sujet de la loi? Et alors, je voudrais que vous puissiez bien comprendre que l'apôtre Paul ne fait pas une opposition entre la loi et l'esprit. Parce que, quand est-ce qu'a été donné le Saint-Esprit? Quel jour? À la Pentecôte. Et qu'est-ce que c'était la Pentecôte? C'était le don de la loi, la fête où on se rappelait le don de la loi. Pâques était la fête où on se rappelait le passage de la mer Rouge. Hein? Et à Pentecôte, pour les Juifs, on rappelle le don de la loi au Sinaï. De sorte que le baptême de l'Esprit a été donné ce jour-là. De sorte qu'il ne faut pas mettre opposition entre la loi et l'Esprit. Hein. Mais il faut comprendre le rôle, le ministère de la loi, qui doit nous conduire à Christ, qui doit nous conduire à celui qui seul peut nous faire vivre. La loi va me prouver mon incapacité et va me faire soupirer après un autre qui me délivrera du corps de cette mort. Il faut que j'en aie le désir. Et si vous revivez les dernières journées des apôtres avant la crucifixion, eh bien, vous voyez qu'ils étaient tous sûrs d'eux-mêmes et qu'ils ont dû tous faire faillite. Et si vous n'avez pas fait cette faillite, si vous n'avez pas connu cette faillite, vous ne connaîtrez pas la vie en abondance. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu seulement pour nous donner la vie, hein, mais une vie abondante. Il n'est pas venu seulement pour nous montrer ce que nous devrions faire en étant un modèle. Mais il a voulu nous donner sa vie. Vivre pleinement la vie de Dieu, c'est lui qui a rendu la loi grande et honorable. Et quand nous le recevons, dans cet aujourd'hui de Dieu, c'est lui, lui-même, qui a pleinement accompli la loi, qui vient vivre en nous. Alors, il ne vit pas d'une manière contraire à la loi, qui est l'expression quand même de la pensée et de la volonté de Dieu. Vous savez bien que tous les codes civils du monde, à peu près, ont pour base la loi de Moïse. Et s'il y a encore un peu d'ordre, c'est à cause de cela. Mais le jour où vous mettez complètement cela de côté, c'est le désordre, c'est la corruption et c'est l'anarchie. Alors, nous ne mettons pas maintenant la loi en opposition avec l'esprit. Mais nous montrons simplement, et c'est ce que Paul montre, que le ministère vraiment qui a été introduit à la Pentecôte est bien supérieur au ministère que Moïse avait eu et qui devait être une étape pour la formation des âmes, pour la formation du peuple. C'est pour ça qu'il est toujours dit encore que la loi est notre conducteur jusqu'à Christ. La loi fait notre éducation et nous amène à ce besoin d'un sauveur. Et ce n'est pas pour mettre les gens sous la loi, parce qu'alors on les met sous la malédiction. Mais pour les amener à comprendre que par elles-mêmes, elles ne peuvent rien. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, Matthieu 5, mais pour accomplir. Alors, versets 7 à 11, la gloire de ce ministère. Si le ministère de la mort, qui est donc le ministère de la loi, a été glorieux en Moïse, combien plus, dira l'apôtre, le ministère de l'esprit de vie. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, combien plus celui de la justice qui sauve le pécheur. Et je lis, si le ministère de la mort, donc le ministère de la loi, qui conduisait à la mort, gravé avec des lettres, sur des pierres. Mais qui est-ce qui avait gravé ces lettres? Le doigt de Dieu. Et ce ministère a été glorieux. Vous vous souvenez du Sinaï? Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire était passagère. Alors là, il vous faut aller dans le livre de l'Exode. Je ne pouvais pas prolonger trop les lectures ce matin à table. Mais vous verrez que, après avoir dû briser les tables de la loi à cause du veau d'or, quand Moïse redescendit avec Josué et qu'il trouva le peuple qui s'était complètement perverti parce qu'on ne voyait pas revenir Moïse, eh bien, quand Dieu, dans son immense amour, a demandé à Moïse de tailler lui-même de nouveau deux tables, Dieu a écrit lui-même sur les deux tables que Moïse avait préparé. Et je lis au verset 29 du chapitre 34 de l'Exode. Donc, lisons déjà dans le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, qui avaient donc déjà été écrites. Mais les tables avaient été brisées. Verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Pour quelle raison? Parce qu'il avait parlé avec lui. Et au verset 11 du chapitre 33, il était dit, l'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée, tous vinrent auprès de lui, et il leur parla. Et quand il eut achevé de parler, au verset 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, verset 33, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce que Dieu lui avait ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Alors, vous comprenez maintenant, vous avez un peu de lumière sur ce qu'il est dit ici dans ce chapitre 3 pour manifester la gloire de ce ministère qui était pourtant un ministère de mort. Et ici, l'apôtre montre que la peau du visage de Moïse rayonnait, mais ça ne serait pas pour toujours. Et lorsque son visage ne rayonnerait plus, qu'est-ce qui serait arrivé aux enfants d'Israël? Ils n'auraient plus écouté, n'est-ce pas? Alors, ils ne se servaient pas de ce rayonnement pour avoir une autorité, comprenez-vous? Ce rayonnement, ils l'avaient quand? Quand il était dans la présence de Dieu. Mais il ne se composait pas un visage. Il ne se composait pas un visage pour se donner une impression de piété, de fidélité. Tout cela, c'était passager, ce ministère de la loi. Alors, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux, parce que le ministère de l'Esprit, lui, n'est pas passager. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Si le ministère de la mort a été glorieux en Moïse, combien plus le ministère de l'esprit de vie. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, combien plus celui de la justice qui sauve le pécheur. Ce n'est pas d'une justice par les œuvres qu'il est question, mais de la justice qui nous est donnée par le Seigneur, par son œuvre à la croix. La justice des œuvres ou la justice de la foi? La justice de la foi. Si ce qui devait prendre fin a été glorieux, donc Moïse dont le visage rayonnait, combien plus ce qui est permanent. Parce que la loi, elle ne donnait pas la vie. Tandis que celui qui est venu et que nous annonçons dans l'Évangile, lui, nous donne la vie. Alors, faisons la dernière partie. Avec cette confiance, verset 10,
1. Verset 12. Avec cette confiance, nous usons donc d'une pleine liberté, non comme Moïse, qui devait couvrir son visage devant son peuple. Moïse se voilait la face, cette illumination disparaissait, et cette fin aurait mis de la défiance dans les cœurs des Israélites à l'égard de Moïse, ce que je disais tout à l'heure. Alors, à cause de leur endurcissement, ce voile reste encore pour eux, les Juifs, et je dirais aussi les baptisés, sur les écrits de Moïse. Mais il est ôté en Christ. Le voile dont Moïse se servait pour cacher la gloire, Paul l'emploie pour montrer que c'est un même voile, au fond, qui reste sur l'Écriture, sur l'Ancien Testament, quand les Juifs le lisent. Et pour que ce voile soit déchiré, que faut-il pour que vous puissiez comprendre l'Ancien Testament? Il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut se convertir au Christ. C'est quand on regarde au Christ que tout à coup la compréhension de l'Ancien Testament nous est donnée. C'est le Nouveau Testament qui illumine l'Ancien. Mais c'est par l'endurcissement du cœur que ce voile subsiste. C'est pourquoi nous avons dit souvent, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est question pour nous de laisser le Seigneur entrer dans notre vie. Et il est dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, le Seigneur est à la fois l'Esprit et la liberté. C'est le Seigneur lui-même qui porte en sa personne le principe spirituel de lumière et de vie. Et il communique ce principe à tous ceux qui lui sont unis. Et en se convertissant au Seigneur, en le possédant tout entier, l'homme, comme on l'a vu hier, est délivré de l'esclavage de la lettre, de l'esclavage de la loi, de l'esclavage du péché. Il est enfin rendu libre. Ainsi, nous pouvons contempler sans voile la gloire du Seigneur et être transformés à son image de gloire en gloire. Sous l'alliance de la grâce, on peut dire que tous sont des Moïse, ayant accès auprès du Père par un même esprit. Nous pouvons nous contempler à visage découvert, donc sans voile, la gloire du Seigneur, Jésus glorifié. Alors, ce qui arriva à Moïse arrive aussi à ceux qui contemplent Jésus dans une vivante communion. Ils reçoivent et rendent comme un miroir la lumière divine, la gloire du Seigneur. Moïse, pourquoi est-ce que son visage rayonnait? Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec lui. Il avait été avec le Seigneur. Il avait contemplé le Seigneur. Alors il reflétait quelque chose de cette lumière. Et c'est Jean Chrysostome, un père de l'Église, qui disait, de même qu'un argent pur, exposé aux rayons du soleil, reflète ses rayons, non de nature. Ce n'est pas l'argent qui c'est pas la nature de l'argent. L'argent est là, mais et le rayon du soleil. Ce que l'argent reflète, c'est l'éclat du soleil. Bien, ainsi l'âme purifiée par l'Esprit de Dieu reçoit un rayon de la gloire du Seigneur et le réfléchit au loin. Mais c'est toujours le Seigneur qu'on doit regarder. Et ça veut dire que nous ne réfléchissons la gloire du Seigneur que parce que nous le contemplons. Si nous ne savons pas ce que c'est que la contemplation, nous ne pouvons pas refléter quelque chose du Seigneur. Et l'effet de cette contemplation est de nous pénétrer en sorte que par là, nous soyons transformés en la même image. Il n'est pas dit que nous nous transformons, mais que nous sommes transformés. Or, le Seigneur, vous voyez, il ne faut pas opposer le Seigneur à l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Par quoi? Par l'Esprit. C'est pas notre œuvre, c'est pas notre travail, c'est pas le produit de nos efforts. Et ça rejoint le psaume 34. Ils ont regardé vers lui et ils ont été rayonnants de joie. C'est aussi Jean 1, la première épître de Jean, chapitre 3. Nous le verrons tel qu'il est, et alors nous lui serons rendus semblables. Mais on voit qu'il y a des progrès, de gloire en gloire. Et c'est pourquoi je disais, quand je regarde dans un miroir, eh bien, qu'est-ce que nous reflétons? Ce qui est derrière, au fond. Moïse n'a vu le Seigneur, la gloire du Seigneur, que par derrière. Parce qu'il n'était pas capable de supporter tout l'éclat de cette gloire. Mais un jour, nous le verrons face à face. Et alors, quand nous le verrons face à face, nous serons vraiment semblables à lui. Ce sera l'aujourd'hui de la perfection. Quand nous le verrons face à face. Mais déjà maintenant, si nous devenons semblables à ces miroirs, nous reflétons quelque chose de la gloire du Seigneur. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la formation des croyants aujourd'hui? Après avoir vu que le chrétien est un parfum, que le chrétien est une lettre, que le chrétien est un miroir, bien maintenant, cherchons la réponse. Jusqu'à présent, vous voyez qu'il est question d'un témoignage silencieux. Un parfum, ça ne parle pas, ça se respire. Une lettre, ça ne parle pas, ça se lit. Un miroir ne parle pas, mais réfléchit, hein? Il reflète. Alors donc, dans un chrétien authentique, le témoignage est d'abord un témoignage silencieux. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être nommé un jour ambassadeur, pouvoir réellement parler avec autorité du Seigneur, il faut d'abord que vous passiez par ces étapes, de gloire en gloire. Parfum, lettre, laisser le Christ écrire ses caractères dans nos vies, être nous-mêmes intraités, la volonté de Dieu écrite dans notre vie. Puis alors, on commence à le refléter lui-même, son image. Devenir l'image du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez répondu à la question sur le Saint-Esprit? Le groupe E. Oui. Donc vous avez attribué toute cette action de la vie chrétienne au Saint-Esprit. Le groupe 2, quelle part avons-nous à faire? Nous laisser faire. C'est ça la volonté de Dieu. Hein? J'accepte ce que tu veux. Je te donne pas de conditions. Je m'abandonne. La part, c'est l'abandon, mais c'est ça qu'on ne veut pas. Hein? On hésite. Notre part, c'est cet abandon quotidien, ce renoncement quotidien. Renonce à toi chaque jour. Puis, laisse Dieu accomplir sa volonté aujourd'hui, et alors demain sera meilleur encore qu'aujourd'hui. On n'a pas à s'occuper de demain, ou ce que nous serons demain. Soyons aujourd'hui ce que Dieu désire. Je reviens à Marie, qu'il me soit fait. Quelle part est-ce que nous avons à faire? Nous laisser faire. Groupe 3. Oui. Oui. Donc il y a de nouveau communion dans les groupes. Groupe 4. Oui. Mais sur la question, donc, quel est le rôle du Saint-Esprit? Donc là, nous voyons l'importance du Saint-Esprit, hein, de l'action du Saint-Esprit. Alors, c'est à nous à veiller au sujet du Saint-Esprit. Non. Alors, groupe 5. Oui. Groupe 6. Alors, j'espère que vous avez bien compris que quand il est dit là où est l'esprit, là est la liberté, hein, c'est pas ce groupe de Corinthe qui disait nous nous sommes du Christ et nous avons la liberté de faire n'importe quoi. Je suis effrayé de voir, par exemple, maintenant, les relations sexuelles avant le mariage, c'est parfaitement admis, même dans les groupes bibliques. Est-ce que c'est ça l'écriture? Alors on témoigne, on témoigne, on témoigne. On parle du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, il exalte Christ. Il met le Christ sur le trône. Le Saint-Esprit ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne glorifie pas la chair. Il met la chair dans la mort. Il maintient la chair crucifiée. Voilà l'œuvre profonde du Saint-Esprit. Puis il tourne nos regards vers qui? Vers le Seigneur. Il nous amène à cette contemplation. Et c'est là l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Maintenir la chair dans la mort. Alors c'est une œuvre douloureuse. Le Saint-Esprit est là pour vous révéler la profondeur de votre misère. Pour vous en détourner. Pour que vous ne comptiez plus sur vous-même. Alors ne soyez pas découragés si vous vous voyez encore plus noir qu'avant. Comprenez-vous? Ne perdez pas courage. Le Saint-Esprit vous dit la vérité sur vous. Et finissez-en avec les œuvres mortes. Toutes les œuvres que vous essayez de faire pour vous améliorer, ce sont des œuvres mortes. Et la plus excellente de vos œuvres, elle apparaît aux yeux de Dieu comme quoi? Comme un vêtement souillé. Ésaïe 64. Alors, septième groupe. Mais alors, comment commence l'œuvre du Saint-Esprit dans une âme? Quelle est la conviction de péché? Il faut maintenant se laisser convaincre. Quand l'Esprit sera venu, disait Jésus, il convaincra le monde de péché. Et ce n'est pas quelque chose de charnel. On ne peut pas nous convaincre le monde de péché, même par une prédication. Il y a des prédications que l'on peut faire sur la repentance. Mais vous ne pouvez pas provoquer vous-même la repentance. La repentance, elle est donnée. C'est vrai ou c'est faux? La repentance, elle est donnée. Où trouvez-vous un texte absolument clair là-dessus? À la Pentecôte de Corneille, qu'est-ce que les apôtres et les frères de Jérusalem disent après avoir entendu le rapport de Pierre? Au verset 18 du chapitre 11, après avoir entendu cela, ces gens qui accusaient Pierre d'être allé chez un païen se calmèrent. Ils glorifièrent Dieu en disant, donc, Dieu a accordé ou a donné la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alors, on ne peut pas fabriquer une repentance. C'est pourquoi nous laissons les âmes en face de la parole de Dieu. Et quand on a mis les âmes en face de la parole de Dieu, on se retire dans la prière pour que Dieu donne cette repentance, pour que la parole de Dieu agisse, pour que ce ne soit pas notre action charnelle, nos pressions humaines qui amènent les gens à une décision qui ne durera peut-être pas. Ce n'est pas nous qui donnons la vie. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, semons la parole. Et le Seigneur la fera germer dans les cœurs. Alors, nous ayant convaincus de péché, il nous amène à la conviction de justice. Il nous montre que Dieu est juste et qu'il a donné son Fils. Et c'est ça la justice de Dieu. Dieu ne nous condamne pas parce que nous sommes pécheurs. Il a fait une œuvre qui le justifie de toutes les accusations qu'on pouvait porter contre lui. C'est l'œuvre de Christ. Il a pris lui-même, lui le Créateur, la responsabilité du péché. Et il nous offre sa grâce. De sorte que qu'est-ce qui nous perd? Le refus de la grâce. Mais alors maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, eh bien, c'est de nous faire croître, nous faire grandir. Et son travail, c'est toujours, non pas porter nos regards sur le Saint-Esprit, mais sur Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annonce. Il met toujours le Christ en avant. Il nous ramène toujours à Christ. Alors à nous de ne pas attrister le Saint-Esprit, à nous de ne pas le contrister, parce que c'est une présence réelle, et nous le savons bien. Quand nous l'attristons, quand nous le contristons, puis quand nous commençons à le laisser être contristé en nous, qu'est-ce qui arrive? Il ne parle plus, et alors, il y a un endurcissement qui se fait. Et comment est-ce que nous pouvons retrouver la communion? C'est par la confession. Et cela, nous en avons besoin. Qui a une autre question? Vous avez aimé votre étude ce matin dans les groupes? Eh bien, tu veux peut-être prier, dis?
Amen.